Le 3 novembre 1993, la nourrice la plus déjantée du PAF a fait son arrivée sur le réseau CBS. Aujourd'hui, on va parler de Broadway, de Gosse de Riche et de Monsieur Sheffield. Nous allons revenir durant près d'une heure sur la mythique sitcom Une Nounou d'Enfer. Générique.
We're sending you back to the future.
88 miles à l'heure.
Eh, hey, mais c'est les minables.
I said I want a poker.
Cela ne nous regarde pas.
Allez, à ciao, bonsoir.
Non, non, mais c'est vous.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Et ça va être hallucinant.
Anthony Méreux sur Rage. Sur Rage.
She was working in a bridal shop in Flushing, Queens. Still her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing.
Et si mes chroniqueuses du soir étaient des nounous, je pense que nos bambins ne s'en sortiraient pas indemnes. Ouais, parce que ma première lui ferait forcément visionner des longs métrages moldaves de 4h30 en plan séquence. Comment ça va, Léa?
Ça va, et toi?
Ouais, super. On parlera un peu, voir si t'as fait des jobs de nounous tout à l'heure.
Ouais, ça marche.
Si ma seconde était nounou, elle déguiserait ses enfants en princesse et après s'être fait couler un verre de lait fraise des Costières, elle parlerait de sa passion pour Matthew Perry, David Charvet et le colonel Riel. Et les enfants finiraient chez le pédopsie. Sauf que le pédopsie, bah, c'est elle. Salut, Lisa.
Salut, ça va? Oui, très bien,
ouais,
et toi?
T'as vu, on est synchro.
Ben ouais, pour une fois.
C'est vrai. Allez, dans quelques secondes, nous allons continuer ce mois sitcom, débuté il y a une semaine maintenant. Tenez-vous prêts, ce soir le 88 vous emmène chez la super nanny la plus culte des années 90. A tout de suite sur Rage.
Shop in Flushing, Queens. Still her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. So over the bridge from Flushing to the Sheffield's door, she was there to sell makeup for the father's amour. She had style, she had flair, she was there. That's how she became the nanny. Who would have guessed that the girl we described was just exactly what the doctor prescribed? Now the father finds it beguiling.
Watch out, CC.
Smiling, she's a lady in red when everybody else is wearing tan. The Flushing girl from Flushing.
Et oui, c'était l'opening de The Nanny, une nounou d'enfer en français.
88 miles à l'heure. Anthony Méreux sur Rage.
Attention les yeux, Miss Pine débarque.
Enchantée, je suis Fred Pine.
Elle croit que je vais être malade.
Je t'assure, je les vois venir, ils vont me prendre la tête. Je la déteste.
Là, je me sens beaucoup.
Une chose est sûre, sa venue va bouleverser la vie de toute la petite famille. Retrouvez une nounou d'enfer du lundi au vendredi à 12h50 sur
W9. Sur W9. Et oui, nounou d'enfer. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, les filles? On va en parler rapidement, on y reviendra après dessus, mais est-ce que vous en avez de vagues souvenirs?
Bah ouais, moi je regardais ça à la télé. J'avoue que je regardais un peu avec ma mère, et c'était assez drôle. Enfin, mais j'ai l'impression que j'étais un peu en décalage avec ça. Enfin, ça me paraissait déjà vieux quand je regardais ça, je sais pas vous, mais
ouais.
Ça faisait un peu dépassé. Même les images, elles sont un peu... C'est un peu flouté, ouais. Il y a un truc, il y a vraiment un style d'époque, je trouve.
Alors, je pense qu'on a été sur les rediffusions, nous aussi. On a l'âge de la trentaine, généralement, ça commençait en 93, on était assez petits. Donc, je pense que nous, on a quand même connu ça avec les premières rediffusions, quand même. C'est peut-être pour ça qu'il y avait peut-être une différence d'image par rapport à ce qui était produit à côté et qui était plus récent.
Ouais. Oui, non, c'est sûr.
Toi, Lisa, du coup, qui est un peu plus vieille, t'as dû voir la première...
J'en place mode aujourd'hui,
c'est ça, exactement.
Il en faut une. Oui, moi aussi, j'ai regardé quand j'étais petite, j'adorais. Mais par contre, je crois que je comprenais pas toutes les subtilités des vannes qui parfois... coup, là, j'ai un peu revu, qui sont parfois vraiment, vraiment folles. Et je comprenais pas tout, mais j'adorais.
Ouais.
C'était super.
Ouais.
C'était, il me semble, le soir sur M6. Ça faisait partie un peu de la case sitcom de 20h à 20h30 quand il y avait le JT sur les autres scènes. Nous, les gamins, avant d'aller au lit, on préférait regarder ce genre de série. Mais une nounou d'enfer qui est arrivée en 1993 aux États-Unis. Ce que je vous propose, c'est de faire comme d'habitude, de retourner en 1993 dans la fameuse chronique Cette année-là.
Cette année-là.
Cette année-là.
Et cette année-là, sur les naissances, on va commencer le 22 décembre, en fin d'année, avec la naissance de Gabriel Medina. Alors, je sais que personne ne sait qui est ce monsieur Gabriel Medina. Alors, c'est un pote à moi avec qui j'ai fait un peu de compétition. Pour le coup, je place un peu mes potes. Hein. C'est un surfeur professionnel brésilien. voilà, tous les deux, on a fait la vague de Nazaré au Portugal. Je l'ai un peu semé sur le coup, il avait un peu la haine. On ne s'est pas parlé pendant quelques jours.
Hein. Évidemment.
Évidemment. Oui. Moi, plutôt, le 22 novembre, c'était Adèle Exarchopoulos, l'actrice connue dans le fameux film La vie d'Adèle, avec aussi là des plans séquences assez particuliers. et qu'on peut retrouver, hein, qui fait partie de la bande de Leïla Bekti, Géraldine Nakache et compagnie.
Ouais, qui a fait LOL récemment.
Ouais, ouais. Qui a pas trop, c'est plus Leïla Bekti qui a marqué le truc, mais en fait elles font partie de la même bande, hein. Et donc elle est quand même assez jeune, cette actrice. Je la voyais un peu plus âgée.
Ah bon?
Ouais.
Ah
moi.
Ouais, peut-être plus notre âge.
Ouais.
Du coup.
Voilà,
ouais,
c'est ça.
Je suis assez d'accord.
En fait, j'ai un peu du mal à me dire que des fois je suis plus vieux que certaines personnes. Et d'ailleurs, le 14 août, c'est Mr V qui est né, le célèbre YouTuber qui a un peu le vent en poupe en ce moment. Tu fais la moue un peu, Lisa, là. Je le dis pour les auditeurs. Tu connais pas Mr V?
Non, je ne connais pas Mr
V. Mr V invente plein de choses et il a la parodie facile. Et là, je vous ai trouvé un extrait de sa toute dernière parodie qui s'appelle Invento. C'est le rappeur qui invente des termes. Ça va vous rappeler certains rappeurs qui existent réellement.
Il a toujours voulu sortir du lot jusqu'au point d'inventer ses propres mots et ses propres expressions que seuls lui et ses potes comprennent. Découvrez Invento.
Elle est vraiment trop warda. Défoncé, je me suis mis Glenda. Sur la piste, elle fait la choca. Elle rend tout le monde blackata. La Gachi, elle est trop saoulée. La Gachi, elle est trop flax. Ce soir dans le club, on fout le school lave. J'ai trop fumé la Jumalika. Tout, j'ai mal au crâne. J'suis Chivadou. Posé avec mes laquais dans le club, j'suis trop splaf. Y'a trop de meufs qui me boule quand.
On dirait pas une vraie chanson de rappeur.
Mais carrément.
Mais tu sais que je me dis que la prod est vraiment bien faite autour
bien
de ce son. Mais c'est pas lui qui avait fait un son country?
Ben, qu'on avait passé sur Walker,
voilà.
Ouais, les Jones.
Ouais, ouais.
On dirait vraiment un vrai son country où il parle de chicken wings et tout pendant tout le.
Ah oui,
le truc.
C'est lui, d'accord.
Et ouais, c'est lui. C'est lui. Tu avais fait. Non, t'avais pas fait l'émission Walker.
Non.
C'était dans le studio.
C'est ça.
Je m'en souviens.
J'ai bien rigolé.
On va passer au décès. Hein. Le 2 décembre 1993, Pablo Escobar est tué à Medellín le lendemain de son 44e anniversaire par la police nationale colombienne, et bien sûr, ça a fait la une des infos.
Pour avoir passé le coup de fil de trop, Pablo Escobar achève sa carrière sur une civière, le corps criblé de balles. Avant-hier, le jour de ses 44 ans, il téléphone à son épouse et à ses deux enfants. Tous trois séjournent dans un hôtel de Bogota après avoir été refoulés d'Allemagne. Mais quand il décroche le combiné, Escobar ignore que quelque part dans Medellín, une camionnette truffée de matériel électronique reconnaît sa voix et localise l'appel. Le lendemain, 500 policiers et soldats bouclent le quartier. Escobar apparaît sur le toit de cette maison qui lui sert de planque. Sur les forces de l'ordre, il vide un puis deux chargeurs et tombe un pistolet dans chaque main. Mais si les tireurs d'élite ont tué Escobar, les politiques, eux, prônent la vigilance.
Et ouais, c'est toujours comme ça, c'est toujours un peu con quand les mecs, ils ont fait des carrières, ils ont échappé aux flics pendant 20 ans, et en fait, le gars, il a passé un coup de fil, il s'est fait prendre.
J'aime
c'est
bien
quand
même le détail de la camionnette. Une camionnette truffée de micros, et, tu sais, comme ça. Si c'était vraiment un truc high-tech.
Ouais, c'est ça. Alors qu'à mon avis, il y avait des vieux micros que tu pouvais acheter chez Action. On était quand même en 93. Hein.
Oui, c'est pour ça.
On va passer aux infos et... C'est l'info du jour, l'info « Faites entrer l'accusé ». Et oui, je l'ai regardé juste hier, je vous dis la vérité, début de l'affaire Jean-Claude Roman. Alors, ça va intéresser les gens qui travaillent dans le milieu médical, hein, je vous explique. Jean-Claude Roman a menti à ses proches pendant 18 ans sur ses activités en se prétendant médecin et chercheur à l'OMS. Le 9 janvier 1993, alors qu'il est à court de ressources financières et que son épouse est sur le point de découvrir la vérité, il la tue, ainsi que ses enfants, avant d'aller assassiner ses parents. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il a finalement été libéré sous condition en 2019 et aujourd'hui, il vit libre, mais toujours en liberté conditionnelle. Ce qui est quand même ouf, c'est que, en fait, pour vous donner un peu plus les détails, ce monsieur a menti à toute sa famille pendant 20 ans, notamment avec sa femme avec qui il a fait ses études. Il n'est jamais allé au-delà de la deuxième année de médecine. Et en fait, il a bien réfléchi, il s'est dit médecin à l'OMS, parce que du coup, pas besoin de faire de thèse, pas besoin de faire des ordonnances aux copains qui viennent demander du Doliprane. Donc du coup, il était assez discret là-dessus. En fait, il partait toute la journée à 8h dans des hôtels près de Genève. Et puis en fait, il lisait des bouquins. Certains ont dit qu'en fait, c'était une sommité dans son milieu. Et certains cardiologues lui demandaient des conseils.
Ah oui. Il était calé donc quand même.
Il était calé, mais il passait sa vie à lire. En fait, il avait zéro diplôme. Et il faut savoir qu'il avait escroqué les gens. Donc il avait un beau train de vie, frontalier suisse. Et en fait, pour avoir ce train de vie-là, en fait, il escroquait les gens en disant qu'il pouvait placer de l'argent en Suisse avec des taux d'intérêt super ouf, notamment la maison des parents de sa femme, tout ça. Donc en fait, il a empoché des millions et des millions de francs à l'époque sur lesquels il vivait, ce monsieur.
L'horreur,
ouais.
Et c'est au moins 20 ans, quoi. Mais non, 20 ouais. ans, c'est long.
Ouais, 20 ans, c'est
ouais, 20 ans, c'est énorme.
Il était reconnu comme quelqu'un qui faisait aucune démonstration, qui... Ouais, j'ai trouvé cette histoire assez ouf pour en fait entrer l'accusé. C'était en 1993. C'est quand même, je trouve que c'est pas la plus connue et pourtant c'est une des plus ouf que j'ai entendues. Sur ces bonnes.
Ça a mis l'ambiance.
Sur ces bonnes paroles. On va parler bien sûr du pays de l'Ovalie parce qu'il y a Léa avec nous aujourd'hui, grande fan de rugby. Est-ce que savais, Léa, que le 5 juin, le Castres Olympique remporte la finale du championnat de France de rugby grâce à un essai litigieux de Gary Whitton, le FC Grenoble, je savais même pas qu'il faisait du rugby là-bas, le FC Grenoble se voit privé du bouclier de Brennus par une erreur d'arbitrage qui a fait scandale à l'époque.
Aïe, 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 la vidéo a toute son importance maintenant dans le rugby.
Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis en place bien avant le foot, ils ont été plus malins.
Je n'ai rien compris à cette seconde.
Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Je savais que c'était pas là où t'allais le plus réagir. Tu vois.
Non. Déjà, bouclier de Brennus, faudra qu'on.
Je te ferai un
débrief. Moi-même, je n'y comprends pas grand-chose.
C'est vrai.
J'ai juste lu un texte. Hein. Le 27 avril 1993, des adolescents sont interrogés sur Antenne 2 sur le look idéal qui séduisent chez une fille ou un garçon. J'ai trouvé ces images, c'est hyper drôle. Si pour certains, des chaussures stylées sont importantes, d'autres trouvent le jean parfois rédhibitoire. Mais tous s'accordent à dire que la tenue vestimentaire serait primordiale pour séduire. Je vous laisse écouter ça. Voilà. C'était sur une émission d'Antenne 2.
En amour, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Normal, c'est le cœur qui commande. Mais quand on flash sur un garçon ou sur une fille, le premier coup d'œil ne pardonne pas. 70s, sport ou classique, le look impose sa loi, mais c'est le plaisir des yeux qui nous incite à faire le premier pas.
Le look que doit avoir un garçon, il doit être en jean, avec une chemise, un blouson en cuir et puis des belles godasses.
Comme Johnny.
Bah déjà, moi, la première chose que je regarde, c'est les chaussures.
Je m'en fous, ces chaussures, c'est pas très intéressant.
J'ai jamais craqué pour un garçon qui soit mal habillé.
Comme par exemple, il y a une chemise et puis un pull par-dessus, il y a la chemise qui part à côté.
On est obligé de regarder comment la personne est habillée. Moi, s'il y a une personne, bon, elle est mignonne, mais qui n'est pas bien habillée, je vais passer mon chemin, quoi.
Déjà très matérialiste à l'époque, les cousins.
Oui, et je vais passer mon chemin. Enfin, ouais. On peut en parler. Je vais passer mon chemin.
T'as vu la manière de parler? On aurait dit que c'était les années 80, ils avaient une espèce d'accent peu.
Ouais. Hein, ça a beaucoup changé. Hein. Ouais.
J'avoue que la chemise mal mise, moi, c'est pareil, ça
pardonne pas.
Ouais. Ah, mais attends, pas du tout, quoi.
Non, je suis d'accord. Le côté débraillé, c'est pas ouf.
Quelle honte. Comme les suites à capuche.
Pardon. Que je porte actuellement, c'est ça?
Pardon, excuse-moi.
Tu t'es rendu compte de ta. Et merci. On va parler cinéma. En 93 est sorti Madame Doubtfire. Excusez-moi, j'ai fait un AVC. Madame Doubtfire avec
Robin Williams,
exactement. Alors, je vous donne un peu le speech, mais je pense que tout le monde le connaît, hein, ce film un peu culte. Hein. Daniel, un doubleur de dessin animé au chômage, n'a aucune autorité sur ses trois enfants, hein, Lydia, Chris et Nathalie. Après 14 années de vie commune, son épouse Miranda, une décoratrice ambitieuse, demande le divorce et obtient la garde des enfants. Afin de continuer à les voir, Daniel se fait passer pour madame, encore une fois, Doubtfire. Ça aurait dû prendre un nom plus compliqué. Une respectable gouvernante irlandaise et entre au service de son ex-femme.
Et oui, il est trop bien, ce
génial.
Il est génial. Ouais. Vous savez que c'est à la base une comédie musicale de Broadway.
Ah non?
Ouais. Moi non plus, je savais pas.
Et ouais. Et Robin Williams, il est encore très bon dans ce rôle de personne un peu immature. Hein. Il avait aussi joué dans ce film qui, tu sais, quand il a un corps d'adulte, mais en fait c'est un enfant. J'ai plus le nom, c'est vrai que je l'ai pas
moi
noté.
Non plus.
Mais il est très très bon dans ce type dans ce type de rôle. Et j'ai un extrait qui va en attester, c'est que il cherche un emploi, du coup, hein, comme il est au chômage, et du coup, ben, il fait des voix de dessins animés à la meuf du Pôle emploi américain là-bas. C'est pas la meilleure façon de se vendre. Hein.
À propos, avez-vous une qualification particulière ?
Particulière ? Ah, ça oui, je fais des voix.
Je ne comprends pas, vous faites des voix ?
Oui, madame, je fais des voix !
Votre planète abrite-t-elle des créatures intelligentes ? Ouh, pas du tout, partant.
Je débarque Amérique à Lord Blanc mariage.
Je te veux, j'ai envie de toi. Ce que j'imite le mieux, c'est le hot dog.
Monsieur Hillard, vous prenez-vous pour quelqu'un d'humoristique ?
Oui, tout à fait. Il fut un temps où je croyais avoir un don de comique, mais vous venez de me démontrer le contraire. Et je vous en remercie.
Ouais. Le regretté Robin Williams.
Ouais. Ouais. Et en fait, il faut quand même saluer, je trouve, les doubleurs de cette époque-là. Parce que là, quand t'écoutes Robin Williams, tu vois, sa voix, elle est.
T'identifies.
Ouais, tu t'identifies directement l'acteur. Et alors que, bah, en version originale, bon, il est tout aussi bon, hein. Mais en version française, ça rend super bien, quoi.
Ben justement, ça me fait rappeler l'émission sur Beverly Hills où en fait on avait entendu la vraie voix de Matthew Perry. Ouais. Et en fait, il a perdu tout son charisme.
Oui,
le gars.
Ah ben là, oui.
Parce qu'ils sont vachement nasales, les Américains, quand ils parlent la langue veut ça. Donc du coup, ça a pas du tout le même effet. Alors que là, il avait une voix hyper beau gosse comme ça. Il disait, oh, Brandon. C'est tellement bon. Il avait joué dans Hook aussi, qui était un de mon film d'enfance. Et puis cet autre film que vous chercherez chez vous, les auditeurs, je suis désolé, mais j'ai
vraiment perdu. Ouais, mais le cercle des poètes disparu.
Ouais, voilà.
Il est excellent, cet acteur.
Ah ouais, ouais. Il était.
Il oui. était.
On l'embrasse.
Il est mort ?
Oui.
Ouais, oui.
Ah bon ?
Allez, on va passer à la musique. J'ai trois bons extraits de 1993 et on va commencer par une chanson française avec Les Innocents, L'Autre Finistère. Ce genre de chanson qui fait partie de la culture française, mais qu'on a tendance un peu à connaître sans connaître les interprètes, en fait. Ben, c'était Les Innocents.
Ouais, pas du tout, je connaissais pas.
Pas
le...
du tout.
Ouais.
Moi non plus, non.
Ah, et ben écoutez, je vous ai appris des trucs alors.
Découverte.
Et oui.
Sur Rage.
Découverte. Et oui.
Et oui.
Radio de la découverte musicale, je vous le rappelle.
Ouais, c'est ça.
Ben d'ailleurs, en parlant de découverte musicale, vous vous souvenez de Jordi ?
Oui.
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez de Alison ?
Oui.
Et ben, c'est ma copine à moi. Et ouais, une musique qui a été écrite par Pierre Billon, sachez-le.
J'ai pas osé le dire. Mais...
Ouais, qui est le copain de Lisa, Pierre Billon, qui nous a fait une émission entière d'ailleurs. On devrait faire une émission sur Pierre Billon entièrement. Tous les Pierre Billon qui ont existé dans
le spécial.
Ah, j'en ai d'autres hein, sinon.
Oui, non, mais ça va.
Ah, ok.
Mais merci beaucoup. Et on va terminer avec une reprise anglo-saxonne d'une chanson française. C'était Peter Kingsbury, Only the Very Best. Was immortal till today. Now I feel a cold decay crawling over me. Over me. No one can have more than they do. I wanted life, I wanted you. SOS d'un intérieur en détresse, chanté par Balavoine, hein, issu de Starmania.
Ouais.
Moi, je préfère l'original quand même.
Ouais,
ouais j'avoue, moi aussi.
Ça va vous faire plaisir, je vous le dis, en exclusivité mondiale et en Mondiovision.
J'ai peur.
Il y aura une émission Starmania la saison prochaine.
Ah.
Ah oui, et comme ça, on pourra faire quand on arrive en ville avec Philippe. Sur son préféré. Eh bien, écoutez, on va passer à la télé et on va parler du 8 mars. Est-ce que vous savez ce qui est né le 8 mars ?
Ma mère.
Alors.
C'est vrai?
Ouais, c'est vrai.
Ah, non, j'allais dire joyeux anniversaire, mais non. le 8 mars, donc, à part la mère de Lisa, c'est la naissance de Série Club, la première chaîne thématique du groupe M6 diffusée sur le câble en France. Donc, Série Club, comme son nom l'indique, c'est une chaîne de
séries.
Et sachez que les premières séries diffusées dès le lancement de la chaîne ont été des très vieilles séries, hein, puisque c'était Amicalement Votre ou encore Mission Impossible.
Oh, Amicalement Votre, j'adorais quand j'étais gamine.
Ah ouais?
Ah, j'adorais ça.
Ah ouais, c'est rare pour des enfants, hein, une série anglo-saxonne un peu vieille comme ça.
Ah ouais, mais y avait Roger Moore et tout, et j'adorais. Y a vraiment l'humour anglais, les belles voitures, Monaco. En plus, c'est hyper sexiste maintenant que j'y repense. C'est des mecs qui consomment vachement les meufs, ils sont là à Monaco et tout. J'adorais ça.
Ah ouais.
J'adorais.
Je ne connais pas, mais c'est
j'ai changé depuis.
Ça fait partie un peu des séries de l'époque avec Chapeau Melon et Bottes de Cuir, tout ça.
Ça
là.
Aussi, j'adorais.
Ça, ouais, ça m'étonne pas, ouais, c'est un peu la même vibes. Mais moi, il y a une série que j'ai adorée qui est arrivée le 19 mai 1993 sur Canal Jimmy, pour ceux qui se rappellent de cette chaîne. Écoutez, c'était des vrais hommes, ça.
Il était flic, il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
Barney, donne-moi un cheeseburger et un donut. J'adore faire ça. C'était le rebelle. Je me souviens du rebelle. C'était avec.
Je regardais pas du tout ça.
Comment il s'appelait lui aussi là? Il avait une teuté, elle était folle.
Ah mais oui.
C'est pas un blond cheveux, un brun cheveux long.
Ouais.
Qui avait un long manteau.
Avec un gars d'origine de type
indien. Oui, il était amérindien.
Et en fait, c'était une série qui était sur Canal Jimmy qui passait le dimanche après sur TF1. Le rebelle, voilà. C'était quelque chose. Renegade.
The Renegade. Anyway. Oh.
Et 1993 rime aussi avec Ace of Base, All That She Wants. Vous savez comment je l'ai prononcé celui-là?
Ouais, bien.
Et ouais. Donc on va s'écouter ce titre avant de revenir sur une toute nouvelle rubrique. Le qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On va vous dire ce que c'est une nounou d'enfer. Voilà, on va vous expliquer. Ce sera dans moins de 3 minutes, hein, 2 minutes 56 exactement. Allez, à tout de suite sur Rage.
Baby.
All That She Wants, des Ace of Base, un des titres préférés de Léa.
Ouais, c'est vrai. Pardon, excusez-moi.
Qui est en train de jouer à la photographe dans le studio.
Et ouais, il faut nourrir les réseaux sociaux.
Exactement.
Ouais, j'adore ce son. J'adore Ace of Base de base.
De base.
De base.
Base. 88 miles à l'heure. Anthony Méreux sur Rage.
The Nanny, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de La Nounou d'Enfer, de Fran Fine et de Monsieur
Sheffield.
Ça, vous connaissez. Hein.
Non, on a bossé quand même.
Et ouais, et on va en discuter tous ensemble dans cette nouvelle rubrique qui s'appelle Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est ?
Explique-moi ce que c'est !
Ce bitch !
Et oui, alors Une Nounou d'Enfer, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une série qui s'appelle The Nanny en version originale. Série télévisée américaine de 146 épisodes de 23 minutes divisée en 6 saisons. Donc elle est arrivée, comme je l'ai dit, aux États-Unis le 3 novembre 1993 sur le réseau CBS, ma chaîne préférée. En France, ce sera le 16 janvier 1995 qu'elle arrivera sur M6. Tu vois, c'est ce qu'on disait, Léa, quand même, c'est 2 ans après déjà qu'elle arrive.
Mmh. Ouais.
C'est une sitcom qui a été produite en partie par Fran Descher, hein, celle qui joue le rôle principal.
Ah oui, c'est vrai qu'elle est productrice, elle.
Exactement. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, pour le synopsis, pour les auditeurs qui ne connaissent pas la série, le jour où Fran Fine débarque chez Maxwell Sheffield, c'est un véritable tourbillon qui emporte toute la monotonie de la maison. Ancienne représentante en cosmétique, elle va désormais s'occuper des enfants de Monsieur Sheffield et devenir une nounou d'enfer. La série continuera jusqu'au 23 juin 1999 et il y aura même une réunion, comme ça se fait beaucoup, mais ils ont été un peu précurseurs hein, parce qu'ils ont fait ça en 2004, la réunion. Sauf avec le majordome qui
Nice.
S'appelait Nice, ouais. Qui n'était pas là parce qu'il jouait à Broadway. Il m'avait envoyé un texto, il m'a dit en gros, je peux pas être dispo, donc dis-leur que voilà, ce serait un peu compliqué. Donc vous regardiez, hein, j'ai bien compris que la série, vous la connaissiez. Une nounou d'enfer. Déjà, qu'est-ce qui transparaît ? Est-ce que vous avez une idée du premier épisode ?
Franchement, je me souviens pas bien, moi, du premier épisode. Je crois, mais je suis pas sûr, vraiment.
Je me rappelle du début, je sais pas si c'est le premier, mais elle débarque pour vendre un truc.
C'est ça.
Je crois, des cosmétiques.
Des cosmétiques.
Et
il y a une nounou qui annule le fait de devoir garder les gamins parce qu'il y a une très grosse réception dans la maison. Et du coup, elle dit, moi, je peux le faire parce qu'en fait, elle s'était faite virer avant de son précédent job dans la toute première scène. Parce que son compagnon qui tenait le commerce en fait a engagé son amante en fait.
Ah oui, il a quitté et
la vire en même temps. Et donc du coup, elle débarque là avec ses cosmétiques qu'elle arrive pas à vendre parce qu'elle est tellement excentrique que voilà, le contact il passe pas super, tu vois. Et finalement, il décide de l'engager avec un bon concours de circonstances. D'ailleurs, elle va foutre un peu le bordel dans la soirée sur le premier épisode. Et fait un peu étonnant, c'est ce premier épisode, comme tous les épisodes de séries américaines, c'est ce qu'on appelle un pilote. Donc c'est un épisode qu'on tourne, s'il est bon, on le diffuse, s'il est pas bon, on en retourne un autre, ça permet de faire un test. Il faut savoir que la grosse différence qu'il y a avec les autres épisodes de la série, c'est que l'escalier de la maison n'était pas au même endroit.
Ah bon ?
L'escalier sur la gauche dans le premier épisode, quand finalement t'as un escalier sur la droite sur le reste
de la
série.
Ah oui, c'est vrai. Ah exact.
Et ouais, sur le pilote, ils ont modifié ça pour le reste des épisodes, mais il a quand même été diffusé, voilà.
Ah ouais. Mais en fait non, je l'ai pas vu, c'est sûr, je l'ai pas vu le premier épisode.
Ouais,
je crois que j'ai vu les 2-3 qui suivaient, mais j'ai pas vu le pilote.
Mais elle écrit ses refs avec dans un rouge à lèvres là, sur une liste de courses. Et en plus, il me semble que vite on voit les 3 enfants chacun avec leur personnalité assez rapidement. Enfin, je me rappelle que ça va vite en fait dans un rythme. Et dans tous les épisodes, à chaque fois, je trouve qu'il y a vraiment un rythme. Dynamique, enfin, on s'ennuie pas du tout pendant 23 minutes.
C'est ça, ça dure 23 minutes, mais on les voit pas passer, exactement.
Ouais. Et dès le premier, moi j'ai le souvenir que si c'est celui-là d'épisode auquel je pense, ça va assez vite.
Et du coup, c'est une série donc avec Fran Fine, Maxwell Sheffield, mais aussi des personnages secondaires qui jouent un rôle très important. Il y a notamment l'assistante, ou je sais pas, c'est une espèce de.
Babcock.
Son bras droit, quoi, on peut dire.
Je sais pas si c'est. Ouais. Alors, je sais pas si c'est son bras droit ou son assistante. Je sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils sont associés ? J'ai jamais véritablement compris, moi, le rôle de Sissi.
Si ce n'est qu'elle est un peu amoureuse de lui en secret et qu'elle voit justement cette nounou un peu excentrique qui arrive là et qui, en plus, est appréciée par Niles, le majordome, qui, elle, ne supporte pas, quoi.
Ouais.
Les punchlines là, entre les deux pendant les épisodes, elles sont excellentes.
Hyper marrant. Il me semble qu'elle va rester nounou pendant quelques saisons, 3-4, avant de se marier avec Maxwell Sheffield.
Oui.
Et adopter les enfants.
Ah, ils adoptent ?
Ben, ils sont avec les enfants de...
Ah oui, non, mais c'est elle qui adopte les enfants de Maxwell. Oui, puisqu'il est veuf, lui.
Et oui. Exactement, ouais. Et dans la série, vous connaissez son métier, Maxwell Sheffield, parce qu'il est riche, mais est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il fait, en fait ?
Il n'est pas producteur de la Broadway, de pièces de théâtre
Producteur à Broadway.
Enfin, à Broadway, ouais.
Ouais, c'est exactement ça. Un autre personnage aussi dont on n'a pas parlé, qui prend un peu plus de place au fil des épisodes, c'est la mère de Fran Fine.
Sylvia.
Qui adore la bouffe.
Yoann nous le disait aussi récemment, en fait, une nounou d'enfer a pompé ses références sur Madame et Servie, série que l'on a fait la semaine dernière.
Ouais.
Voilà, on est un peu. Alors, on n'est pas sur la même histoire complètement, mais les rêves sont là, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un employé qu'on met dans une maison et qui va foutre un peu le bordel dans la maison.
Ouais. Ouais, qui vient bouleverser un peu la vie de tout le monde.
Ouais.
Mais bon, après, sur un contexte financier qui n'est clairement pas le même, quoi.
Clairement pas le même, encore Candida Bauer dans Madame et Servie, est quand même assez aisée.
Oui, elle est aisée, mais ça fait plus banlieue que vraiment
plein New York.
Où tu sens que, avec le majordome, voilà, ça veut dire qu'il y a deux employés quand même chez les Sheffield.
Ouais, c'est ça. Alors que dans l'autre, il y a Tony Danza qu'elle payait la pièce, quoi.
Oui, c'est
qui
ça.
Qui fait à la fois la cuisine, le ménage et le repassage. Un souvenir particulier de la série ou pas ? Une scène en particulier, un souvenir ?
Moi, j'en ai plein. Mais moi, j'aime bien Mamie Yetta aussi.
C'est sa grand-mère, ça ?
Ouais, c'est la grand-mère de Fran.
Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit extrait de Une nounou d'enfer, notamment du premier épisode et de là où elle force un peu la nanny pour se faire embaucher.
Je suis navré que vous ayez assisté à tout ça. Je vais vous reconduire.
Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que votre fils a fait une remarque idiote, je vais pas décrocher le job ! Ah non, c'est pas juste.
Donc, comme vous l'avez constaté, j'ai besoin d'aide chez moi. Beaucoup plus qu'une représentante en cosmétique pourrait m'apporter. Niles ? Niles ?
Oh, ça fait rien, je vais décrocher. Résidence Sheffield ? Ah non, chérie, c'est Fran.
Mais enfin, donnez-moi ça.
C'est l'agence des gouvernantes.
Maxwell Sheffield, j'écoute. Merci.
Ah oui, c'est vrai.
Non, lundi, ce sera trop tard. Je vous ai dit que j'avais besoin d'une gouvernante ce week-end. Avez-vous une certaine expérience des enfants ?
Vous rigolez, j'ai pratiquement élevé les enfants de ma sœur pendant son séjour à l'hôpital psychiatrique.
Peut-être qu'il y a une autre agence.
Oh, je vous en prie, je viens de la banlieue, j'en ai vu de toutes les couleurs avec les enfants. Ça, je vous assure, ils m'ont tout fait, sauf peut-être les faux suicides.
Entendu, je vous engage, mais seulement à l'essai.
Oh, merci, monsieur Sheffield, merci beaucoup, vous ne le regretterez pas.
C'est bizarre, je me posais la question, figurez-vous. Niles va vous montrer votre chambre.
Allez, et après cette petite review, on va revenir d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Bolide avec Dans le Noir, c'est un titre rage. Et c'est juste avant la page de réclame et le Fafaviez-vous de Léa. A tout de suite sur Rage.
Je cours, tu t'en vas, t'es comme l'année qui vient. Je me tue à la tâche, comme je tâche tes draps de mon vin. Je te saoule, je veux signer ton corps de ma main et ton cœur d'une croix. Je te suis à la trace, mais c'est toi qui me chasse loin des courbes et des côtes que j'ai tant parcourues. Mes étoiles qui s'hérissent et tes larmes qui s'aiguisent. Je me cache dans des rêves qui ne sont pas les miens. Dis-toi, je vais t'aimer dans le noir. Décrire sans te voir, ouais, t'inventer sans te croire. Oh, oh, oh. longtemps qu'on se voit plus. T'as pris mon sourire en otage. J'espère qu'il a bien combattu. Y'a ton nom partout sur les pages. Ton nom par-dessus mes ratures. Tes traits sur tous les visages. Et ton corps sur celui des statues. De l'aiguille et le fil qui refistole mes nuits trouées avec tes cils. Mais si t'existes, c'est sûrement dans la BO d'un film italien. Comme la brise marine te va bien. Dis-toi, je vais t'aimer dans le noir. Oui, te décrire sans te voir. T'inventer sans te croire.
Et ouais, c'était Bolide avec Dans le Noir. Et ça va être l'heure de retrouver la page de réclame sur l'année 1993. Je pense que ça va vous rappeler des souvenirs.
88 miles à l'heure. Mon Dieu. Anthony Méreux sur Rage.
Maman, maman, tu nous rapportes quelque chose ?
Oh oui, maman.
D'accord, mais seulement une petite chose.
Je voudrais quelque chose de nouveau et un jouet.
Et du chocolat.
Mais chérie, c'est trois choses en même temps, c'est pas possible. C'est pas possible.
Mais si, avec Kinder Surprise, c'est possible. Kinder Surprise, c'est une émotion toujours nouvelle. Un jouet et du bon chocolat Kinder.
Quelle bonne idée.
Waouh, Kinder Surprise.
Tu es la meilleure maman du monde.
Kinder Surprise réalise trois désirs à la fois.
Moi, c'est Antoine. Ma mère, gentille mais un peu maniaque. Dormir à l'heure, manger à l'heure. Et voici un très joli canapé, très fragile. Eh bien là, je fais pipi dessus. Eh oui. Maman, explique-leur.
La culotte intégrale des nouvelles peaux douces est absorbante et anti-fuite autour des cuisses. Et enfin sur le ventre et dans le dos. C'est idéal pour les tout-petits.
Je fais caca aussi ou tout le monde a compris?
Peau douce, pas d'histoire de fuite entre nous.
Alors, il faut que je vous dise que Lisa... Et mort de rire. Cette pub l'a tué, je pense. Je sais pas pourquoi. T'as aimé, hein?
J'adore, c'est ma vie. J'ai l'impression que ça a été filmé chez moi.
Ah ouais?
Ouais, ça aurait pu être ma fille, ouais.
Ou chez Mode pour les couches.
Ah oui, bien sûr, voilà. Mais j'ai pas osé.
Tu veux dire des plus grandes couches alors?
Oui, ce qu'on appelle des protections dans le milieu médical. Tiens, Léa, ça va être à toi. Hein. Ça va être le Faviez-vous sur The Nanny.
Yeah.
Le Faviez-vous.
On va parler de poids, on va parler d'IMC pour la première anecdote.
Exactement. Est-ce que vous saviez que Renée Taylor, donc celle qui joue Sylvia, la mère de Miss Fine, a pris 22 kilos sur le tournage? Et d'ailleurs, la mère de Miss Fine est toujours en train, puisqu'en fait, elle est toujours en train de grignoter. Et l'idée est venue au scénariste quand ils ont vu l'actrice piquer dans les assiettes de ses co-stars un jour, entre deux prises, donc elle était en train de grailler, quoi. Et c'est devenu un gag récurrent dans la série, dans Une nounou d'enfer. Et en fait, le résultat fut tel que l'interprète de Sylvia a pris plus de 22 kilos à force de manger à l'écran, et qu'à force, elle a même apporté une ordonnance de son médecin demandant à l'équipe de lui donner uniquement des aliments faibles en calories pour éviter les problèmes de santé, quoi.
Il y a des risques comme facteur, quand même. Hein.
Ouais. Attends. Mais c'est vrai qu'elle est tout le temps en train de s'enfiler des donuts, trucs hyper sucrés.
De la lingerie comestible aussi, à certains épisodes. Ah ouais, elle bouffe tout ce qui peut se manger.
Ouais. Et, c'est vrai, et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, ils ont pris un élément de off pour en faire un élément de la série.
C'est ça.
Ce qui relève du génie. On va parler de Monsieur Sheffield et de son accent anglais qui a pas plu à tout le monde.
Ouais, c'est vrai, parce que quand la série a commencé à être diffusée au Royaume-Uni, il y a pas mal de téléspectateurs, qui ont écrit à Charles. Et alors, je ne vais pas prononcer son nom parce que c'est imprononçable.
Attends, j'essaie. Charles Chogonensi.
Voilà, Charles Shaughnessy, qui joue donc Monsieur Sheffield. Et en fait, les gens, les téléspectateurs lui ont reproché son imitation de l'accent anglais, qui était apparemment très mal fait. Et en fait, ils ont écrit pour se plaindre, quoi. Et ils ont même conseillé de prendre exemple sur Daniel Davis, qui joue, lui, Niles, puisque apparemment, Daniel Davis avait un meilleur accent britannique que celui qui joue Monsieur Sheffield. Et le pire dans tout ça, c'est que l'acteur qui joue Monsieur Sheffield est d'origine britannique. Il est né à Londres.
D'accord.
Alors que Knights, pas du tout.
Donc l'américain a un meilleur accent londonien que le britannique.
Ouais.
On va parler d'accent turc là. Parce que vraiment, je pense qu'un jour je veux voir ce que tu vas nous révéler. J'ai pas pris le temps de chercher un extrait et j'en suis vraiment désolé les auditeurs, parce que je pense qu'on aurait rigolé de
ouf. Non mais vraiment, moi non plus, j'ai pas eu le temps de chercher. Et en fait, non, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas pris le temps. Nuance, mais il faudra trouver. Il existe une version turque de la série qui s'appelle en fait Dadi et qui a duré que 3 saisons comparé à une Noun d'Enfer qui a duré plus longtemps.
Et quand ils vont aux toilettes, c'est à peu près pareil ou... Alors, je sais pas, j'étais perturbé par des toilettes turques quand j'étais petit.
J'imagine. Peut-être se pencher, ça.
Ouais, c'est ça. On va parler d'un ancien président qui a fait une apparition dans l'épisode.
Il y a eu de la guest un petit peu, puisque Donald Trump a fait une apparition dans l'épisode La gloire de Miss Fine. Et il était décrit dans le script comme étant un millionnaire, donc le mec joue son propre rôle.
C'est ça, exactement.
Et Trump a demandé à ce que ce soit changé, parce qu'il n'était pas millionnaire, mais milliardaire. Donc il a juste demandé à avoir un grade un peu plus au-dessus, normal.
Un homme rigoureux, voilà, avec une très belle coiffure, cela dit. On a parlé de Kim Jong-un la semaine dernière. Qui avait une très belle coiffure. D'ailleurs, je ne suis pas mort, Philippe, pour te dire, parce que j'ai critiqué le dictateur nord-coréen, pardon, et il m'a dit que dans 3 jours, je serais mort. Trump a une coupe de cheveux aussi dégueulasse.
Depuis, il a 2 goûteurs qui sont décédés, mais lui, ça va. Toi, ça va, du coup.
C'est ça. Moi, ça va.
J'espère que ça va aller pour nous.
Ouais. S'il n'y a que 2 chroniqueuses ce soir, c'est qu'il y a une raison. J'ai fait une offrande à la Corée du Nord. On va parler d'initiales et de prénoms. C'est quoi ça?
Miss Babcock, qu'on appelle tout le temps Miss Babcock ou Sissi dans la série. Est-ce que vous connaissez son prénom?
Le prénom dans la série ou son vrai?
Le prénom dans la série.
Non.
Du coup, Anto, non?
Moi j'ai la réponse, donc c'est un peu bête. Mais par contre, je vais te dire un truc avant que tu nous l'annonces, c'est que moi Sissi, je pensais que ça s'écrivait comme la princesse.
Ah ouais, donc
pour moi, j'avais pas les 2 C un peu à l'américaine, tu vois.
Ouais, ok. En fait, elle s'appelle Chastity Claire. C'est son prénom complet.
D'accord. On va parler justement des audiences qui ont commencé à baisser et de la solution qu'ont trouvé la production.
Quand les audiences ont commencé à baisser, en fait, la chaîne CBS a donné un ultimatum à Fran Drescher et à son mari de l'époque, Peter Mark Jacobson, qui lui était coproducteur du coup, c'était en fait de faire soit d'arrêter complètement la série à la saison 5, soit de faire se marier Fran et Maxwell pour assurer la saison 6.
Choix qui a été fait du coup.
Qui a été fait et qui a fonctionné puisque tout le monde attendait ça quoi.
Et oui, mais ça a relevé la fin de la série parce qu'il est resté qu'une seule saison juste après.
C'est ça.
Merci beaucoup Léa.
Mais de rien, avec plaisir.
Comme chaque semaine, pendant ce mois sitcom, je fais une petite review d'une autre sitcom rapidement, puisqu'on n'a pas tout le temps de les faire. Je vais vous parler de quelque chose d'assez particulier, c'est Alf. Et oui, Alf, une série américaine en 102 épisodes, diffusée de 1986 à 1990 sur le réseau NBC. Qui parle justement d'un soir où un crash a lieu sur le garage d'une famille qui vit dans une respectable banlieue résidentielle, et à leur grande surprise ils découvrent que c'est un alien qui a atterri qui s'appelle à la base Gordon Shumaway et qu'ils appelleront Alf pour Alien Life Form. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Alf, petite anecdote, ils avaient plusieurs marionnettes de dispo, mais pour les plans larges, Alf était joué par un nain de 83 cm. J'ai trouvé les centimètres. Je vous laisse écouter un extrait le temps que vous vous remettiez de cette info.
Oh, salut Raquel.
Ah,
On va laisser Léa, se remettre de son fou rire. Et en attendant, on va s'écouter le générique. Il dure 50 secondes, tranquillou. On revient pour le et maintenant de Lisa. Allez, à tout de suite sur Rage.
À l'heure. Anthony Méreux sur Rage.
88 miles à l'heure.
Lisa.
Oui.
Tu es prête?
Bien sûr.
Alors, je vais être honnête avec toi, je n'ai absolument pas lu ton texte.
Je m'en doutais, sinon tu m'aurais fait un petit retour.
Voilà, exactement. Tu as attendu un message apparemment pendant une semaine. Écoute, je vais me rattraper en l'écoutant directement. Est-ce qu'il y a une marque de confiance quand même?
Oui, c'est super.
Et maintenant ?
Et maintenant ?
Bon, alors je pense sincèrement que j'ai écrit la meilleure chronique qu'on n'a jamais écoutée dans le 88 MPH jusqu'à maintenant. Oui, Léa, je suis désolée.
Ah ben non, mais ça me laisse en voix, je suis toute oui.
Donc si je me permets de dire cela en toute modestie, évidemment, hein, parce que j'ai vraiment été inspirée à l'instant même où j'ai appris le thème de l'émission. C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 minutes, je pense que mon texte était écrit. Voilà, mes doigts tapaient presque seuls de manière intuitive sur mon clavier et j'espère vraiment, vraiment que vous êtes prêts. Donc, j'étais tranquillement assise à mon bureau pour écrire ma chronique. Alors oui, je vous vois venir, enfin surtout toi Léa, puisque tu es à côté de moi. C'est vrai que j'aurais pu faire hein, que sont-ils devenus, comme le fait brillamment Maud concernant les trois enfants Sheffield qui ont dû bien grandir hein, depuis la série et accomplir des choses très drôles.
Ah, sûrement, ouais.
Donc j'aurais pu, par exemple, vous faire découvrir comment Maggie, l'adolescente réservée de la série, a fini comme actrice porno ou encore comme la petite Grace, passionnée de psychanalyse à l'âge de 8 ans, a fini enfermée dans un asile. Mais non, rien de tout ça. Rien de tout ça n'est arrivé.
Ah d'accord.
Mais non, pas du tout.
J'étais en train de dire, waouh.
Pourquoi tu n'as pas fait cette chronique?
Mais non. Non, les deux jeunes femmes ont continué leur carrière d'actrice sans vraiment briller par leur talent. Et le jeune Brighton a fini très loin de l'image du charmant bambin blondiné qu'on lui connaît, avec une belle calvitie. Hein, il est beaucoup moins mignon maintenant. Ce qui l'a peut-être amené à passer de l'autre côté de la caméra et devenir directeur des opérations du parc Universal Studios Hollywood.
C'est déjà pas mal.
Donc, bon, revenons à ma chronique, du coup, que je vais commencer. Donc, j'étais en train de... Ah oui, c'est vrai, je te vois venir, Anthony, que j'aurais pu aussi imaginer un petit jeu sur les meilleurs punchlines de Niles, le majordome, afin de faire participer toute l'équipe dans la bonne humeur, comme le fait souvent Johan. Ouais. Mais bon, franchement, faire semblant que les émissions se passent dans la joie et la bonne humeur, c'est pas vraiment pour moi. Vous le savez très bien d'ailleurs, car vous avez déjà remarqué que, comme Monsieur Sheffield avec Fran, dans la série, notre cher Anthony n'hésite pas à nous menacer de nous virer de l'émission à la moindre occasion.
En effet, la jeune lycéenne est dotée d'une force surhumaine, ainsi que d'une grande agilité, d'une guérison accélérée, d'une intuition très forte et de clairvoyance pour couronner le tout. Elle fait des rêves prophétiques.
Elle a tout pour s'en sortir bien. En fait.
Comme Anthony.
Je fais souvent des rêves prophétiques.
Ouais. Surtout Tic. Ouais.
Il y en a un de vous qui n'est plus là l'année prochaine.
Moi, je sais qui c'est.
Bon, revenons à ma chronique, qui, j'en suis sûre, retiendra toute votre attention. Alors oui, juste avant, vous allez me dire hein, que j'aurais pu faire une chronique en faisant des imitations comme sait le faire Philippe. Notamment celle de Miss Fine avec sa voix nasillarde qu'on connaît tous.
Vous croyez que lorsque Chéri va découvrir que l'homme chef a été avalé, ce sera un motif de rupture de contrat?
Alors j'aurais pu parler comme ça pendant toute la chronique.
J'ai bossé ce moment-là, je vous jure que je l'ai
bossé. Alors, et tu as quand même de la chance qu'on fasse de la radio, meuf, parce que moi j'avais la teutée en face, elle se bouchait le nez comme ça, elle allait plonger dans la piscine. Oh. Et elle parlait en ayant la tête vers le haut. Il y a qui ici qu'on voit ça, les gars? sur le sac à soins, ils font pas des trucs comme ça, sans déconner.
Bon, j'avais bossé ce moment-là. Ouais. Mais bon, donc j'ai souhaité faire quelque chose de plus profond, de plus travaillé, évidemment. Ah oui. Donc, pour revenir à ma chronique, j'étais... Alors oui. J'aurais pu faire un texte tout en chanson, reprenant les grands moments musicaux de la série, comme le ferait Marie. Vous vous rappelez tous de Niles qui fait son entrée en musique et en caleçon dans un épisode sur cette chanson.
Vous savez que je l'ai déjà fait ça ? J'ai fini en garde à vue.
Tu sais que Ricky Martin l'a fait ?
C'est vrai ?
Oui, sur une émission, petite parenthèse, hein, sur une émission, je sais plus comment ça s'appelle cette émission aux États-Unis, où en fait ils refont les vidéoclips et c'est des acteurs qui rejouent, je crois que ça s'appelle Battle, enfin bon bref, et c'est Ricky Martin qui rentre en caleçon-chemise et qui fait ce moment-là.
D'accord.
Ça doit être plus sympa que dans Ricky Martin en caleçon.
Ou que Anto.
Oui, effectivement, c'est vrai.
Je le ferai un jour. Mais pas dans la rue comme là dans la fin.
Bon, j'aurais pu faire ça, mais voyez-vous, je pense que le message de cette série est bien plus fort et mérite qu'on s'y attarde. Imaginez un homme blanc, riche, veuf, qui, comme sa femme n'est plus là, a besoin, en plus d'un majordome, d'une femme pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. Non, vraiment, le sujet est passionnant et très avant-gardiste, je trouve. Donc c'est en m'inspirant de cela que je vais commencer ma chronique. Alors oui, c'est vrai que j'aurais pu imaginer une chronique qui reprendrait tous les meilleurs films dans lesquels ont joué les acteurs de la série, comme le ferait Léa, avec sa grande culture cinématographique. Mais en vrai, je crois qu'aucun d'eux n'ont eu de grand rôle dans des super films, et je ne voulais vraiment pas vous priver de cette merveilleuse inspiration qui m'a envahie. Donc, alors oui, c'est vrai que j'aurais pu parler de la série du côté de chez Fran.
Ouais, avec comme, Dave.
Avec Dave ?
Oui. Il va faire un tour du côté de chez Fran. Pardon. Allez, enchaîne.
Du côté de chez Fran, comme l'aurait certainement fait Gonza, qui au regard de son jeune âge n'a peut-être pas connu une nounou d'enfer. Mm. Mais en effet, cette série qui n'est pas considérée comme le spin-off, malgré le même prénom de l'actrice principale, Fran, et le fait que son mari soit joué par le même acteur qui jouait Monsieur Sheffield, n'a pas rencontré le même succès, donc j'ai décidé de ne pas vous en parler. J'ai beaucoup été inspirée par cette série, principalement par le personnage principal de Miss Fine. Peut-être que vous aurez perçu tout au long de mon récit comment j'ai pu saisir le sens de la débrouille, voire de l'opportunisme de cette jeune femme qui arrive dans cette famille sans avoir les codes, mais qui sait toujours se sortir des situations les plus complexes. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec le fait de me retrouver ici, à faire une chronique radio, fraîchement arrivée dans cette équipe qui a su m'accueillir avec beaucoup de bienveillance, comme le montre la première émission à laquelle j'ai participé et dans laquelle j'étais très attendue.
Enfin, ma dernière intègre l'équipe. Et quoi de mieux pour une première que de parler d'un sujet que l'on maîtrise avec précision. Salut Léa et bienvenue dans la Team 88.
Salut, je m'appelle Lisa par contre.
Je savais que j'allais faire la connerie.
Mais je suis ravie d'être là.
Oui Lisa, bien sûr, on se connaît bien.
Tu sais mettre à l'aise des gens.
Et c'était sûr.
Allez.
Eh ben, on va se marrer.
Super.
Je termine ainsi cette fabuleuse chronique, car les points communs avec cette nounou d'enfer s'arrêtent là, car à la différence de Miss Fine, je ne suis absolument pas payée pour écrire mes textes, et ça se voit peut-être.
Et ça continuera surtout. Merci Lisa.
88 miles à l'heure. Anthony Méreux sur Rage.
Hélène.
Je m'appelle Hélène. Je suis une fille.
Vas-y, Lisa.
Pas comme les autres. Hélène, j'aime mes joies, mes peines. Elles font ma vie comme la vôtre. Je voudrais.
Je pense aux auditeurs qui ne comprennent pas pourquoi cette chanson passe sur cette station de radio là maintenant tout de suite. Elle est sortie en 93. Hein. On était en pleine émulation d'Hélène et les garçons qui était sortie en décembre 92. Je remercie les filles. Puis je me suis dit, on est entre meufs ce soir là, tous les trois là. Petite soirée pige là, on s'est mis une petite musique d'ambiance quoi.
Voilà. Toi tu sais nous cerner.
Hein. T'as compris. T'as compris. Je vous remercie les filles pour cette émission très agréable sur la nounou d'enfer. Merci Léa.
Merci à toi.
À dans 2 semaines.
À dans 2 semaines, oui. Bah, oui,
on
oui.
ira faire la fête à la maison.
Super.
Merci Lisa.
De rien. Merci. Voilà. Merci.
Du coup, ouais, je disais, on se retrouve pour la fête à la maison, hein, Full House, dans 2 semaines pour terminer le mois sitcom avant le best-of animé par mode en 5e semaine.
Ouais.
Vous pouvez bien évidemment retrouver les présents épisodes sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Là, dans pas très longtemps, c'est mes potos, hein, c'est mes frérots Forever et ma bande organisée Thierry et Cristobal avec Backspin et puis Pierre Avril hein, pendant le relais à 22h avec Golden Year. Hein, c'est votre mardi vintage sur Rage. Nous, on se voit la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.
Une bonne soirée.
À bientôt.
C'est bon, tout le monde a dit ce qu'il voulait.
Oui.
Allez, salut.
Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Je voudrais trouver l'amour. Simplement. Les autres Hélène.